Nous quittons Shukugawa en taxi. Nishio-san habite un coin de banlieue sans connexion. En chemin, nous nous arrêtons pour une pause déjeuner. Incapable d'avaler quoi que ce soit, je pars à la recherche d'un fleuriste à qui j'achète un rosier. « C'est pour offrir ?» demande la commerçante. J'opine. Elle me fabrique un emballage très supérieur au pauvre rosier qu'il contient. Je vais transporter une corbeille digne de l'enterrement d'une diva. Le taxi nous conduit jusqu'à une HLM de la périphérie de Kobe. L'immeuble est un peu sordide. Nous avons 10 minutes d'avance. Je me promène dans la cour où des enfants de 4 ans jouent au ballon. À l'heure dite, je monte au 6e étage. Les appartements sont accessibles par une passerelle extérieure. Les portes sont misérables. À côté de l'une d'elles, je reconnais les idéogrammes de Nishio. Le cœur oppressé, je sonne. La porte s'ouvre. Je vois apparaître une très vieille dame qui mesure 1,50 m. Nous nous regardons d'abord avec terreur. Les retrouvailles sont des phénomènes si complexes qu'on ne devrait les effectuer qu'après un long apprentissage ou bien tout simplement les interdire. Elle dit mon nom, je dis le sien. Au téléphone, sa voix m'avait paru jeune. Je n'ai plus cette impression. Elle m'invite à la suivre en commençant une litanie d'excuses. J'enlève mes chaussures, les membres de l'équipe font de même. Nous rejoignons Nishio-san dans une salle de séjour microscopique. Elle m'ordonne de m'asseoir sur une chaise et elle reste debout à côté de moi. Nos têtes sont enfin à la même hauteur. Je lui montre la caméra et lui demande si cela la dérange. Elle reprend sa litanie d'excuses. Je la comprends très bien. Ce que j'éprouve est pareil. Nous sommes si gênés que la présence d'une caméra n'y change rien. Je lui donne le rosier qui est aussi grand qu'elle. Elle le pose et le déshabille avec les remerciements stridents que je lui ai toujours connus. Puis, elle revient se poster debout face à ma chaise et me dévisage. « Tu ressembles à ta mère », finit-elle par dire. « Comment vont vos filles, Nishio-san ? »
« Je ne sais pas. »
« Êtes-vous grand-mère ? » ?»«
Mes filles ont des enfants, mais je ne les connais pas. Elles refusent de me voir. »
Cette nouvelle me pétrifie. Nishio-san, femme pauvre et sans mari, a travaillé dur toute sa vie pour élever ses jumelles. Et voici qu'elle la rejette. J'attends une explication qui ne vient pas. Je sais qu'il ne faut pas la demander. Comme Nishio-san est vieille. Elle a presque 80 ans. Elle paraît encore plus. Ses cheveux blancs sont coupés courts. Elle porte un pantalon et un gros cardigan de laine. L'appartement est plutôt agréable, ce qui me rassure. Jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas effleurés, ni dit quoi que ce soit qui témoigne de l'immensité de l'amour qui nous lie. Je sais que si je ne fais pas un effort, nous ne quitterons pas cette réserve. Je réunis mon courage pour dire. Moi aussi, Nishio-san, je suis votre fille. Et je viens d'Europe pour vous voir. Le miracle se produit. Nishio-san éclate en sanglots et me prend dans ses bras. Je suis toujours assise sur la chaise. Cette position ne convient pas, alors je me lève et j'étreins la petite femme frêle de toute ma force. Nous demeurons interminablement ainsi. Je pleure comme j'aurais voulu pleurer à l'âge de 5 ans quand on m'avait arrachée à ses bras. Il est rare d'éprouver quelque chose d'aussi fort. J'incline la tête vers celle de cette femme si importante, et c'est alors que l'innommable a lieu. À cause des sanglots, le contenu de mon nez coule sur le crâne de ma mère sacrée. Épouvantée à l'idée qu'elle s'en soit aperçue, je lui caresse les cheveux du plat de la main afin de nettoyer mon forfait. Au Japon, un geste aussi intime est une grossièreté folle. Mais Nishio-san l'accepte, parce qu'elle m'aime. C'est une loi immuable de l'univers. S'il nous est donné de ressentir une émotion forte et noble, un incident grotesque vient aussitôt la gâcher. L'étreinte se relâche. Bouleversée,
Je tombe sur la chaise. Nishio-san ne veut toujours pas s'asseoir, sans doute pour garder le visage à la hauteur du mien. Habitez-vous ici depuis longtemps ?
Oui, depuis que le tremblement de terre de 1995 a détruit ma maison.
Avez-vous eu à Kobe des répliques du 11 mars 2011 ?
De quoi parles-tu ?
Vous savez, Fukushima.
Je ne comprends pas.
Je me tourne vers l'interprète, un tokyoïte de 22 ans, en le priant de m'aider. Avec douceur, il explique à ma nounou que je fais allusion au grand tremblement de terre du 11 mars 2011.
C'est quoi ? Demande-t-elle.
Le jeune homme et moi échangeons un rapide regard. Dans les yeux de Yumeto, je lis « Est-ce que je lui dis ?» Je secoue la tête pour refuser. Ainsi, malgré la présence du téléviseur, Nishio-san n'a pas capté la catastrophe de l'an passé. La vieillesse l'en a protégé. Je ne trouve pas utile de la mettre au courant. Si son cerveau n'a pas enregistré le drame, c'est que sa capacité de souffrance était saturée. À quoi bon infliger Fukushima à cette femme qui a vécu les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ? Elle me questionne sur mes parents, mon frère et ma sœur. Elle accueille mes réponses avec ses petites exclamations qui signalent qu'elle est suspendue à mes lèvres.
« Vous vous souvenez que quand j'étais enfant, vous me laissiez manger dans votre assiette » dis-je.
Elle rejette mon propos d'un geste de la main. Je ne sais pas si cela signifie qu'elle ne se rappelle pas ou que des choses aussi normales ne méritent pas d'être mentionnées.
À quoi sait-on qu'une personne âgée n'a plus toute sa tête ?
Il y a comme un flottement. Ce n'est pas elle qui est perdue face à nous, c'est nous qui sommes perdus face à elle. Elle détient un savoir capital. Elle connaît l'art de ne plus assimiler ce qu'elle refuse. Nous voudrions tous être capables de ce prodige.
Et si je lui parlais de mes livres, puisqu'au téléphone je lui ai dit que j'étais écrivain ?
Une profonde absence de désir me convainc de ne pas aborder cette question. Je ne cherche pas à l'analyser, je m'y conforme. Il est temps de partir. Je prononce la phrase rituelle. Vous devez être honorablement fatigué.
Nishio-san se raidit.
Elle salue poliment les gens de l'équipe qui sortent tous, me laissant seule dans l'appartement avec la femme cruciale. Alors, elle devient convulsive, me prend les poignets, puis m'étreint, puis me reprend les poignets. Ses yeux tragiques parlent une langue insoutenable. Il y a une heure, je pensais que les retrouvailles, ce devrait être interdit. À présent, je pense que les séparations devraient l'être également. Je suis en train de transgresser ces deux tabous concomitants à une heure d'intervalle. Ma seule excuse, c'est que j'en ignorais l'essence tragique. Nishio-san et moi tremblons comme des réacteurs. Elle dit qu'elle a honte, je dis que j'ai honte. Je me surprends à penser que je voudrais ne plus être ici. Il y a trop de souffrance. Je voudrais que l'arrangement soit accompli. À 5 ans, j'étais plus forte. Une ultime fois, j'étreins la femme sacrée. Elle pousse un gémissement qui me donne l'impression d'être un monstre. J'ouvre la porte, je me retourne, je la regarde, elle me regarde, je ferme la porte derrière moi. Un autre monde commence dans la cage d'escalier. Je titube jusqu'à Yumeto qui semble très bien comprendre ce qui m'arrive.
Comment l'avez-vous trouvé ? Dis-je.
C'est une personne très âgée, répond sobrement l'interprète.
Que dois-je faire ?
Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Elle était heureuse de vous voir. Dans la voiture, je m'aperçois que je ne suis pas la seule à pleurer. La réalisatrice sanglote. Le réalisateur a la larme à l'œil. Nous avons chacun une vieille mère, qui n'est pas forcément notre mère de sang, mais que nous vénérons pour des motifs immémoriaux. Silence de mort dans le véhicule. Après 10 minutes, je déclare. Cette fois, j'ai réussi à pleurer. Il le fallait.
Nishio-san avait besoin de vos larmes, me dit la réalisatrice.
Bénie soit-elle. Ces paroles me sauvent. Soudain, ma poitrine cesse d'être oppressée. Je respire enfin. Une joie de rescapé circule en moi. J'ai réussi l'épreuve. Il peut arriver que le plus profond de nos besoins soit aussi la plus atroce des ordalies. Je mesure le miracle. Nishio-san et moi, nous nous sommes revus. Je lui ai dit ce qui devait être dit. J'ai laissé circuler entre elle et moi un si terrible amour et nous avons survécu. Par la fenêtre de la voiture, Kobe me semble soudain une ville merveilleuse. Yumeto me demande si ça va. Je dis oui. Désormais, il me parle japonais. Pourtant, il a bien remarqué qu'avec Nishio-san, je commettais 3 fautes par phrase. Mais il semble penser que je suis bel et bien l'enfant de cette femme.